Emprise. Emprise.
Monsieur Luschfetzer, bonjour.
Bonjour.
Alors, le grand public vous connaît notamment pour la présidence du groupe automobile Renault, que vous avez exercé de 1992 à 2005. Mais parmi les nombreuses hautes fonctions que vous occupez, il y en a une qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est celle de président du conseil d'administration du Festival d'Avignon, que vous occupez depuis 2005. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette mission et quel est votre rapport à la culture et au théâtre en particulier ?
Bon, il y a deux éléments qui expliquent que je sois président du conseil du festival, fonction dans laquelle j'ai succédé au maire d'Avignon qui ne pouvait plus l'exercer du fait des règles nouvelles sur les conflits d'intérêts. La première, c'est que j'ai la passion du théâtre. J'ai la passion du théâtre depuis plus de 50 ans. Je vais au théâtre entre 100 et 150 fois par an, donc beaucoup, et je suis, si je puis dire, un fondu du théâtre. Et puis l'autre élément est un élément d'amitié. De l'amitié pour Bernard Fèvre-Darcier, qui a été, vous le savez, directeur du festival pendant longtemps, avec qui j'ai travaillé quand j'étais au cabinet du Premier ministre, et qui est devenu un ami. Et donc il m'avait proposé ou demandé d'être président du conseil du festival, et lui-même a été remplacé avant que cela se fasse, mais Vincent Baudrier, Hortense Archambault ont repris cette demande et moi j'étais ravi. J'étais ravi parce que j'aime ce festival et parce qu'au fond, d'être président, même si on n'a pas de rôle artistique, permet de vivre le festival plus de l'intérieur, d'être plus étroitement associé encore au festival. Et j'essaye tous les ans de voir la quasi-totalité des pièce du IN. Donc, je suis un spectateur assidu.
Le grand public connaît le directeur, Olivier Py, mais peu savent ce qui se joue derrière, en particulier le travail de concertation entre le conseil d'administration et la direction. Quel est le rôle, le poids du conseil d'administration dans la conduite du festival ?
Bon, d'abord dire une chose très claire, le festival a un patron, son directeur, ou peut avoir deux patrons. Ça s'est trouvé par exemple avec Vincent et Hortense, où le directeur et le co-directeur avaient des rôles pratiquement égaux. Mais le conseil d'administration, lui, n'a pas du tout pour métier de se substituer ou de gérer le festival. Juridiquement, le président du conseil d'administration a tous les pouvoirs, mais la première chose qu'il fait une fois qu'il est élu, c'est de déléguer ses pouvoirs au directeur du festival. Alors, que fait le conseil ? Bon, il a les tâches normales d'un conseil, c'est-à-dire qu'il se réunit trois fois par an, qu'il approuve le budget, qu'il entend les grandes orientations, qu'il en charge tous les aspects juridiques du festival et qu'il suit la bonne marche des choses. En outre, le président du conseil a une sorte de mission de conseil auprès du directeur, pas sur l'aspect artistique. C'est la responsabilité du directeur et le président, il donne son avis. Mais il donne son avis comme n'importe quel spectateur du festival peut donner son avis. Mais dans une structure comme celle du festival, il y a des problèmes juridiques, il y a des problèmes de relations avec les tutelles, il y a des problèmes d'effectifs, et sur ces sujets, le président du conseil a effectivement une mission. Et puis, il peut y avoir des événements qui justifient un rôle particulier. Je pense par exemple à la construction de la Fabrica. La Fabrica, c'était pas gagné d'avance. Et je pense que c'était un projet très important. Alors, c'était le projet de Vincent et d'Hortense. Il a été réalisé extrêmement vite, mais le fait de le monter, de le financer, ça n'est pas allé de soi, parce qu'il fallait l'accord de l'État, du conseil départemental, de la région, de la ville, de la communauté d'agglomération. Bref, tout ça était un peu compliqué. Et là, le conseil d'administration et le président jouaient un rôle plus important.
Justement, vous parlez de la Fabrica. Malgré les contraintes budgétaires, le festival d'Avignon a réussi à faire advenir ce projet emblématique d'un coût total de 10 millions d'euros. Un lieu de création, de résidence, avec une mission sociale en direction des quartiers. Et cette structure est la preuve qu'il est encore possible de donner naissance à des projets ambitieux. Quels étaient les arguments les plus forts pour décider les financeurs et quel rôle a joué le conseil d'administration dans cette opération ?
Bon, Avignon, c'est un des deux plus grands festivals de théâtre du monde, mais la vie du festival, c'est 3 semaines par an, 3 semaines sur 52. Alors, autrefois, le directeur du festival d'Avignon ne résidait pas nécessairement à Avignon. Et depuis Vincent et Hortense, ils sont en permanence à Avignon. Et donc, assez naturellement, l'idée est venue qu'il devait y avoir une vie du festival tout au long de l'année. Alors, cette vie du festival, ça ne pouvait pas être de présenter des spectacles. Ça, c'est le rôle du festival. Et puis, à Avignon, il y a des théâtres, il y a un opéra. Mais il est apparu que si le festival voulait vivre, il devait devenir producteur. Il ne pouvait pas simplement donner à voir des spectacles produits ailleurs. Et pour être producteur, il faut avoir un outil. Un outil qui permette de faire travailler les artistes, de permettre de monter des spectacles. Et puis, nous avions aussi un autre problème à Avignon, c'est que la Cour d'honneur, c'est le lieu le plus emblématique. C'est le lieu qui fait l'image. Au fond, quand le premier spectacle de la Cour d'honneur est réussi, l'image du festival, c'est gagné. Quand le premier spectacle de la Cour d'honneur ne marche pas bien, tout le festival, les 40 spectacles du festival, n'ont plus la même image aux yeux du public. Et le problème de la Cour d'honneur, c'est que c'est une scène immense, probablement la plus grande scène moderne qui soit, et il est impossible d'y répéter. Et donc très souvent, vous voyez des spectacles dans la Cour d'honneur qui n'occupe pas la Cour d'honneur. Et donc, il fallait aussi, pour la Cour d'honneur, un lieu de répétition à l'échelle de la Cour d'honneur. Donc, il y avait cette idée double d'un lieu de travail permanent, qui puisse être un lieu de représentation pendant le festival, et un lieu de répétition pour la Cour d'honneur. D'où l'idée de la Fabrica. Et s'ajoutait à cela l'idée d'un lieu de résidence. C'est une sorte de petit cloître. Il y a beaucoup de cloîtres à Avignon. C'est un petit cloître pour artistes où ils puissent se rassembler, travailler ensemble. Alors, à partir de là, l'idée existait. Elle a beaucoup voyagé. La maire d'Avignon voulait faire une très grande structure avec une immense salle sur l'île de la Barthelas. Bon, ce n'était pas idéal. Et puis après est venue l'idée de s'installer à Montclar, qui est une idée qui n'existait pas au départ, qui est venue du département qui désaffectait un collège. Et on se disait, bon, ça va poser un problème de désaffecter ce collège, le quartier va être dévitalisé. Et donc, l'idée est venue de créer sur ce site cette Fabrica. Elle n'avait pas encore ce nom-là à l'époque, hein, on hésitait. Et je pense que c'est la rencontre de ce projet et de ce lieu qui a créé l'unité des 4 collectivités concernées. Alors après, il y a eu bien sûr des négociations, des débats, des difficultés qui seraient maîtres d'ouvrage, donc le responsable de la construction. Et là, on a décidé, parce que personne ne voulait le faire, que ce serait l'association du festival elle-même. Là, il faut reconnaître que le rôle d'Hortense Archambault a été tout à fait central. Bon, la responsabilité juridique, il se trouve, là, c'était la mienne. Mais le pilote, ça a été Hortense, qui a suscité un concours. On a constitué un jury, des architectes, des responsables de la scène, choisi un projet, une remarquable architecte, et c'est un projet, il n'y en a pas tellement, qui s'est déroulé dans le strict respect et du budget et du délai.
Et dans quelle mesure les politiques culturelles des gouvernements successifs impactent-elles les décisions du conseil d'administration ?
Il y a en fait une très grande continuité du festival d'Avignon. Le politique intervient à l'évidence dans un domaine qui est le choix du directeur. Le choix du directeur relève formellement du conseil d'administration et le conseil et son président sont consultés, mais disons-le, c'est tellement important à Avignon que le choix remonte au plus haut niveau de l'État en dernière analyse. Sur la continuité de l'action, j'ai été frappé qu'il y a eu des changements de majorité. Il y a eu des changements de majorité à la région, il y a eu des changements de majorité au département, il y a eu des changements de majorité dans la ville, et il y a eu des changements de majorité en l'État, à l'État. Et dans la réalité, ces changements n'ont pas impacté le Festival d'Avignon. Au fond, le Festival d'Avignon, il a sa vie propre, son énergie propre, et il a eu la chance d'avoir des directeurs qui étaient tous différents, mais au fond, dont aucun n'a manqué de légitimité. La force de leur personnalité fait qu'ils ont entraîné derrière eux toutes les collectivités publiques.
Olivier Py a réaffirmé cette année, à la conférence de clôture, que le Festival d'Avignon restait sous-subventionné au regard de sa mission et de sa renommée internationale. Et à titre d'exemple, le Festival d'Aix-en-Provence reçoit deux fois plus de subventions. Et vous, qui êtes un fin connaisseur de la décision publique, à quoi attribuez-vous cette différence de traitement ?
Bon, il faut dire qu'à Paris, il y a une comédie française et il y a un opéra. Et l'opéra doit recevoir 7 ou 8 fois plus de subventions que la comédie française. Donc, il y a un fait de départ qui se trouve partout dans le monde, c'est que l'opéra c'est beaucoup plus cher que le théâtre, et du coup les subventions vont plus à l'opéra qu'au théâtre. L'opéra a un second avantage, c'est que l'opéra bénéficie, là aussi partout dans le monde, de plus de mécénat que le théâtre. Et le théâtre, et l'opéra fait aussi payer ses spectateurs beaucoup plus cher que le théâtre. Donc au fond, dans l'opéra, tout est plus cher. Le problème du théâtre et d'Avignon, c'est que si on augmentait les prix, on arriverait toujours à remplir les salles. Mais on perdrait un public, et Olivier l'a souligné, et c'est vrai depuis Villard, le public d'Avignon est un public unique, et ce n'est pas un public riche. Et si c'était un public comme un public d'opéra, comme un public d'Aix, on perdrait ce qui fait le cœur et l'esprit même d'Avignon. Donc, la contrainte financière est forte. Alors, je n'ai pas répondu à votre question. La réponse est simple. Dans un système contraint, où le budget de la culture n'a plus doublé depuis le temps de Jacques Lang, eh bien, l'État, au mieux, renouvelle ses subventions à l'identique. Et donc, après des grands débats et des grandes luttes, les subventions sont renouvelées à peu près à l'identique. Et donc, la disproportion entre Aix et Avignon demeure. Alors je ne souhaite pas qu'Aix perde sa subvention, c'est un beau festival. On essayera de faire qu'Avignon bénéficie d'un peu plus, mais ce n'est pas gagné.
Vous avez parlé du mécénat. La loi Ayagon de 2003 a permis d'insuffler une nouvelle dynamique au mécénat d'entreprise. Et si les grandes entreprises ont su capitaliser sur cette opportunité en termes d'image, de récentes études témoignent de l'intérêt de développer un mécénat territorial à partir des PME et des PMI. Quels sont, selon vous, les leviers pour attirer davantage ces nouveaux acteurs vers le mécénat culturel ?
Alors, c'est vrai qu'Avignon a un cercle des mécènes locaux, a aussi des mécènes nationaux, qui représentent pour le moment encore une part limitée du budget, mais je crois que c'est important d'associer le monde économique à la culture. D'abord, je pense que le monde économique a tout intérêt à montrer qu'il ne pense pas qu'au profit et qu'il a une vision un peu plus large des choses. Le mécénat théâtral a une difficulté particulière, c'est que ce n'est ni un lieu mondain, ni vraiment une action sociale au sens traditionnel. Et beaucoup d'entreprises vont vers des lieux plus mondains, l'opéra, des grandes expositions de peinture ou de musique, soit vers du mécénat social, au sens fort du terme. Et le théâtre fait le lien entre le social et la culture. Et donc, il a du mal à accrocher ses mécènes d'entreprise. C'est une action de durée qui a fait des progrès récemment, et donc j'espère qu'on va pouvoir continuer, mais il ne faut pas se faire d'illusions, ça sera toujours beaucoup moins que les subventions publiques.
Et au moment de votre nomination comme président du conseil d'administration du Festival d'Avignon en 2005, vous avez déclaré « L'image patronale ne va pas de soi dans le monde du spectacle vivant, c'est évident ». Depuis 12 ans, quelles évolutions avez-vous observées ?
Faible. Faible. Effectivement, le monde patronal, c'est plutôt dans l'image, et je parle du monde des grands patrons, hein, je ne parle pas du monde des patrons de PME qui sont au fond, qui ont une très bonne image en opinion et qui font partie de la vie locale. Mais le monde des grands patrons, c'est plutôt distancié de la société depuis 10 ou 15 ans. Et je pense que la bonne nouvelle, c'est que les chefs des grandes entreprises ont réalisé que cette distance leur portait tort. Qu'au fond, l'image de leurs grandes entreprises, comme orientée uniquement vers le mondial, la globalisation, la recherche du profit, la financiarisation, cette image-là était mauvaise pour recruter des gens de qualité, pour assurer le bonheur et l'épanouissement des gens qui y travaillaient. Et donc, il y a une conscience qui apparaît tout doucement que les grandes entreprises doivent créer du lien avec la société.
Lors de la commission des affaires culturelles qui s'est tenue le 18 juillet, les nouveaux modèles économiques envisagés par le ministère de la Culture ont suscité de vives inquiétudes chez les responsables des centres dramatiques nationaux, en particulier le rapport René Bonnel qui propose de prélever 1 euro sur chaque billet de spectacle public pour alimenter le théâtre privé. Pouvez-vous nous aider à décoder cette logique ?
Bon, je n'ai pas lu ce rapport, donc je ne vais pas pouvoir en parler en détail. Mais il me paraît extraordinairement paradoxal. Alors que le théâtre public a besoin de subventions pour vivre, que ces subventions n'augmentent pas et qu'elles limitent l'ampleur de l'action du théâtre public, c'est le cas évident à Avignon, de prélever sur le théâtre public et donc en fait de réduire les ressources du théâtre public, ces ressources qui proviennent de subventions au profit d'un théâtre privé, qui est un théâtre intéressant, dont la vocation n'est pas de prélever les subventions du théâtre public.
Alors dans le documentaire sur le Festival d'Avignon, diffusé il y a quelques jours sur France 2, vous avez déclaré, avec un sourire un brin malicieux, et vous l'avez également dit au début de l'interview, qu'un festival est réussi lorsque le spectacle qui ouvre la cour d'honneur est réussi. Quels sont les critères qui vous permettent d'apprécier si un spectacle est réussi ?
Bon, moi j'ai mes goûts en tant que spectateur qui voit 30 à 40 spectacles tous les ans du festival IN. Et ma définition de la réussite, c'est le bonheur personnel que je ressens. La réussite dans la cour, c'est pas le goût personnel de Louis Schweitzer, c'est le fait que les 1900 ou 1950 spectateurs de la cour, au fond, soient heureux. Et ce bonheur, il est venu d'Antigone cette année. On voyait à la fois un silence extraordinaire tout le long du spectacle et un applaudissement debout à la fin. Pour moi, c'est la définition de la réussite. Le public d'Avignon, il est à la fois très ouvert, mais pas conventionnel. Je veux dire par là qu'il est ouvert à l'innovation, il vient toujours très disponible. Mais s'il n'est pas content, il n'hésite pas à l'exprimer. On le voit, des spectateurs partent, d'autres expriment leur mécontentement, ils applaudissent avec enthousiasme, où ils applaudissent avec politesse. Et ça se sent tout de suite dans une salle.
Alors en conclusion, j'aimerais vous faire réagir sur une phrase de la rédactrice en chef de la revue culturelle Cassandre Horchamp, qui déclare « La culture est ce qui nous lie, l'art est ce qui nous transforme ». Que vous inspire cette réflexion ?
La culture est ce qui nous lie. Bon, ça fait référence à Renan, à beaucoup d'autres, qui expliquent qu'il y a une communauté qui n'est pas ethnique, pas historique, mais qui est de ce qu'on partage et d'un projet. Et ça, c'est évident que la culture nous lie. Ce qu'il faut faire, c'est qu'elle lie tous et chacun d'entre nous, autrement dit que tous aient accès à la culture, ce qui franchement n'est pas encore gagné. Et donc il y a encore beaucoup à faire. L'art nous transforme, c'est vrai. C'est vrai parce que l'art, au fond, nous fait découvrir d'autres aspects de nous-mêmes, nous fait grandir. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais au fond, un être qui n'a pas eu d'expérience artistique, et ça peut être une expérience artistique très différente des expressions culturelles traditionnelles, c'est pas nécessairement aller à l'opéra, aller au théâtre, mais c'est une forme d'émotion qui fait, je pense, que vous êtes autre, et je crois meilleur.
Merci Luc Schwetzer d'avoir répondu à nos questions.
Merci, au revoir.